Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Micro-Rebelle. Micro-Rebelle, la web radio du bassin minier, web radio des alternatives, hein, sociales, politiques, proximité, éducation populaire. Notre émission donc s'intitule « Débattre la campagne ». On a souhaité profiter des élections législatives et présidentielles pour aborder des questions politiques, la démocratie, le politique, la politique, en invitant différentes personnes, et notre émission est diffusée simultanément chez nos amis de Radio Plus 104.3. Radio Plus, c'est la radio du bassin minier et de l'Artois. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marine Tondelier. Marine, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour nos auditrices et auditeurs, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Hein, quels sont tes engagements? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai invité parce que tu étais à Europe Écologie Les Verts, mais tu peux nous en dire davantage.
C'est toujours l'exercice le plus difficile que de se présenter. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse en premier lieu, mais j'ai 30 ans. Je suis née il y a 30 ans à Bois-Bernard. J'ai toujours vécu à Hénin-Beaumont, cette magnifique ville qui n'a cessé de s'embellir et de s'améliorer depuis. Je suis engagée pour l'écologie depuis quelques années maintenant, depuis les municipales partielles de 2009 pour être très exact. Et voilà, je travaille à l'Assemblée nationale, mais je travaille vraiment, pas comme Pénélope Fillon. Ça fait un mois que c'est un peu difficile de présenter mon métier. Les gens disent « Ah bah oui. Ça va, tranquille !» Et donc je dis « Non, pas pour tout le monde. »
Tu gagnes pas autant et tu travailles plus.
Exactement. Je suis à temps partiel parce que le mandat d'élu d'opposition à Hénin-Beaumont, même s'il n'est pas indemnisé, prend quand même du temps et notamment nécessite le vendredi matin d'être sur le marché, de pouvoir voir des gens aussi, de participer à des choses. Donc je suis à temps partiel depuis les municipales de mars 2014.
Ah bah justement, puisque tu nous parles d'Hénin-Beaumont, dis-nous-en un peu plus. Comment ça se passe là-bas? Tu es élu? C'est conflictuel?
Alors conflictuel, oui. En même temps, le contraire aurait été étonnant. C'est pas une promenade de santé. En même temps, je me plains pas parce que je pense que, premièrement, le travail d'élu d'opposition est en fait toujours difficile. Pas que dans les villes FN. Être élu d'opposition, c'est difficile. Et en plus, je pense que même si à Hénin, c'est très difficile, on a un avantage par rapport à d'autres gens dans cette ville, c'est de pouvoir avoir le confort de dire quand on n'est pas d'accord. Quand on est élu d'opposition, on est tellement exposé que finalement, peut-être qu'on n'est plus à ça près et qu'on est au-dessus des représailles, des lynchages, des intimidations parce qu'on est déjà allé trop loin. Et c'est peut-être plus confortable, en tout cas pour moi, ça l'est, que pour un employé municipal qui est soumis au devoir de réserve ou pour une association qui a peur de perdre sa subvention et donc qui doit encaisser en serrant les dents et en surtout ne répondant jamais, en ne commentant pas.
Ah, peut-être quelques mots sur le livre que tu viens d'écrire au sujet d'Hénin.
Alors je viens d'écrire un livre effectivement qui s'appelle « Nouvelles du front » qui raconte la vie dans une ville Front National depuis 3 ans. Le moment où je l'ai écrit, la mi-mandat, est le moment peut-être idéal pour lever la tête du guidon. On a tendance à être beaucoup baladé en fond de cours comme au tennis, c'est-à-dire qu'on nous envoie les balles et nous on passe le temps à courir, à essayer de répondre, de riposter et en fait... Faut pas se laisser enfermer dans ces stratégies-là, parce que du coup, c'est le Front National qui guide le jeu. Donc, il y avait un moment, et la mi-mandat, pour moi, était le moment idéal, où on lève la tête du guidon, on pose les choses par écrit. Moi, j'ai travaillé par chapitre, alors je décris c'est quoi être employé municipal dans une ville FN, c'est quoi être associatif, c'est quoi être journaliste, c'est quoi être élu d'opposition, être au conseil municipal. Je décris des choses parfois assez violentes, et ce qui était intéressant, c'est que je pense que moi, je me suis beaucoup habituée à ça. En fait, j'ai été élue que dans cette ville, en plus. Donc, pour moi, la normalité, peut-être que c'est ça. Et j'ai aussi appris à encaisser, à faire en sorte que ça me glisse dessus pour pas être complètement angoissée, quoi. Et le moment où j'ai relu le livre d'une traite, parce que je l'avais travaillé par chapitre, et le moment où je l'ai relu pour la correction finale, là, j'étais hyper angoissée. Et finalement, c'est peut-être le fait de mettre les pièces du puzzle les unes à côté des autres qui crée ce moment où on prend conscience de la violence de ce qu'on vit au quotidien et qui glisse aussi parfois parce qu'on se forge cette carapace, quoi.
Alors moi, j'ai pas lu le livre, mais alors si je t'écoute, tu as donc...
Comment ça, t'as pas lu le livre?
Ça va venir, rassure-toi. Comment tu as procédé? Tu as donc interrogé des associatifs, des employés de la mairie?
Oui, parce que je voulais pas raconter que mon histoire à moi. Ce que je voulais raconter, c'est la ville sous le Front National. Je trouve qu'on est quand même une ville qui est vue dans les médias nationaux exclusivement sous deux angles. Un, le maire corrompu, donc la ville, c'est la corruption, ce qui est quand même un peu... Bon, c'est plus le cas. Et deuxièmement, la vitrine bien lustrée du Front National, et donc c'est la ville, c'est le Disneyland de frontistes, quoi. Et en fait, il y a quand même une autre réalité dans cette ville. Premièrement, une histoire extraordinaires, comme l'histoire du bassin minier, la grève des mineurs de 1941, les luttes sociales à Metal Europe, à Samsonite. Il y a une histoire sociale très riche que je voulais mettre aussi en avant, donc expliquer ce passé peut-être glorieux, en tout cas résistant, et aussi mettre en lumière des gens qui vivent pas ce mandat Front National dans Disneyland, en fait. L'envers du décor du Disneyland, peut-être. Et donc, j'ai pas souhaité raconter que mon histoire à moi, parce qu'elle est quand même très singulière. Je voulais mettre en récit d'autres vécus, donc j'ai fait des entretiens, et notamment ça m'a aidé, parce que les employés municipaux, moi je connaissais quelques histoires, mais même moi j'étais loin de m'imaginer, en fait j'avais la partie émergée de l'iceberg quoi, et en voyant une, deux, trois, j'ai vu 20 personnes en tout, chacune, alors les gens arrivent en vrac, ils disent mais ils m'ont fait perdre confiance en moi, j'ai l'impression que je sais rien faire, et puis tout ce que je fais c'est mal, enfin, ils arrivent vraiment mal, et chacun a l'impression qu'il n'y a que eux. Et en fait, j'ai entendu ce discours plusieurs fois, et à un moment, je me suis dit, en fait, c'est un système de management. Et même, ce qui m'a touchée, c'est qu'à la lecture du livre, ces gens-là me disaient, mais c'était comme une psychanalyse pour nous, comme une psychothérapie, parce qu'on se rendait compte qu'on n'était pas seul, on se rendait compte que c'était pas de notre faute, on se rendait compte que ce qu'on a vécu à Hénin, c'est peut-être ce qu'on entend aussi à la télé, parfois, comme à France Télécom, etc. Et donc, je me suis dit, au moins, ça les fait sentir mieux, c'est comme...
ça a libéré des paroles, quoi.
Ouais, et puis la honte doit changer de camp, en fait, en mairie. C'est pas normal que quand ils croisent quelques élus FN, ils baissent les yeux parce qu'ils se sentent nuls et coupables. En fait, c'est pas eux qui devraient baisser les yeux, c'est les gens qui leur infligent ces traitements. Et donc, j'espère que ça inversera peut-être la charge de la faute là-dessus.
Bon, en tout cas, je le lirai.
Ah bah, j'espère.
Voilà. Alors donc, tu es élu d'opposition à Hénin et par corrélation, élu à la communauté d'agglomération de la CAQ, Hénin-Carvin.
Exactement, puisque depuis mars 2014, il y a un nouveau scrutin où on peut être élu d'opposition dans une ville et représenter cette ville à la communauté d'agglomération. C'était pas le cas avant.
Tu nous en dis quelques mots, comment ça se passe ?
Alors, c'est pas du tout le même exercice, parce que c'est sûr qu'être être élu d'opposition dans une ville Front National, c'est dur, mais être la seule, enfin on est deux écolos à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, c'est pas forcément simple non plus, parce qu'on est dans la majorité, et donc qui dit majorité veut dire aussi être solidaire de certaines décisions, etc. Mais la voix écologiste, elle est pas forcément évidente à faire entendre tout le temps, on passe un peu pour les... Enfin, je veux le dire trivialement, je passe pour la chieuse, quoi, des fois, mais c'est pas très très grave. Après, bon, on a quand même une grande écoute de nos partenaires sur les questions écolo, je pense que l'agglomération Hénin-Carvin, par rapport à ses voisines, fait quand même beaucoup de choses. Sur les questions environnementales, il y en a qui doivent être jaloux autour, sur les composts, sur Aquaterra, la maison du développement durable. Il y a vraiment des politiques qui sont belles. Mais après, moi, mes sujets fétiches, parce que aussi je trouve qu'ils sont graves, sont les sujets de santé environnementale dans le bassin minier, la pollution de l'eau au perchlorate, la pollution de l'air, les sols pollués de Metal Europe aussi. Il y a quand même toute une série de choses qui mettent les gens en danger et qu'il faut dire. Et ma divergence peut-être avec certains élus, c'est qu'il y en a qui disent « Oui, mais tout ce que tu racontes, c'est angoissant pour les gens.
Ouais. »
Sauf qu'en fait, je pense que les gens sont déjà angoissés parce qu'ils savent. Je préfère qu'on en parle et qu'on cherche des solutions plutôt qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est le travail à l'agglomération. Puis il y a une autre chose aussi qui est peut-être difficile. C'est une sorte de dissonance cognitive. Vous savez, quand on sait qu'il faut faire un truc et qu'on est mal à l'aise avec. Moi, je suis élue d'opposition dans ma ville, mais j'aime ma ville. Elle allait très mal en 2009, elle est très mal en 2014, elle va encore pas très bien. Et c'est compliqué de se dire qu'on souhaite, par exemple, comme on est dans l'opposition, on veut que la politique municipale rate. Moi, je suis pas du tout dans cette perspective-là parce que je me dis que cette ville va tellement mal que c'est pas possible qu'elle aille encore plus mal dans 3 ans. Et donc, je suis amenée notamment à l'agglomération de Hénin-Carvin à défendre ma ville, même si c'est pas moi qui en tirerai les bénéfices politiques. Mais par exemple, quand une association des nains demande une subvention et qu'elle l'a pas, alors le Front National va hurler à l'apartheid politique en disant qu'ils l'ont pas parce qu'ils sont des nains Beaumont. C'est pas forcément vrai non plus. Mais moi, je suis amenée des fois à batailler contre la majorité pour défendre cette association. Et donc, ça donne des choses parfois baroques, mais il faut le faire avec sérénité et détermination.
Des choses parfois baroques du type tu votes avec le Front National pour cette subvention de cette.
C'est rare que ça arrive au vote parce qu'en général c'est tranché avant, mais des fois j'interviens en séance en disant je vous préviens, moi je défends ma ville et donc c'est pas normal que là-dessus ça se passe comme ça. Et si on va au vote, je voterai contre. Je propose qu'on retire la délibération pour en discuter ou qu'on cherche une solution. Enfin voilà, j'essaye de déminer comme je peux pour qu'on n'arrive pas à ces situations extrêmes là.
D'accord, très bien, je te remercie. Alors, il y a aussi la question de tes engagements autres. Ici, à Micro-Rebelle, on a reçu plusieurs collectifs très différents. On a reçu le collectif qui milite contre le gaz de couche. On a reçu Au Secours 62. On a reçu Fraternité Rome.
C'est tous les collectifs où je suis, j'ai remarqué.
C'est autant de dossiers dans lesquels tu es impliqué, effectivement.
Exactement. Peut-être pas autant que je devrais, parce qu'il y a une question de temps à un moment. Et que, je rappelle, les gens ne savent pas forcément, mais le mandat d'élu d'opposition... En tout cas, dans une ville de la taille d'Hénin-Beaumont, il n'est pas indemnisé. Et c'est vrai que, bah, entre la vie professionnelle, la vie militante, la vie politique et tous ces collectifs dont on parle, voilà, j'aimerais avoir plus de temps, et peut-être quand je serai retraitée, pour m'engager vraiment sur ces questions-là. Et en tout cas, pour l'instant, je m'estime plus être en soutien. Et on va dire que j'interviens dans les moments de crise, quand vraiment il y a besoin de renfort, parce que ça va pas du tout. Mais je suis pas en mesure de faire un travail de fond quotidien auprès de chacun de ces collectifs.
Très bien, mais écoute, si tu es d'accord, on va rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet de débattre la campagne, notre émission. Alors, moi, je t'avais invité, c'était avant que Yannick Jadot ne rejoigne Benoît Hamon. Mm-hmm. On va peut-être commencer par en parler. Si tu pouvais expliciter pour nos auditrices et auditeurs le sens un petit peu de ce rapprochement, est-ce que c'est pour ne pas diviser la gauche? Est-ce que c'est parce que on reconnaît dans les propositions de Benoît Hamon des mesures auxquelles Europe Écologie Les Verts se rattache? Fais-nous un petit peu le tour de cette question.
Par où commencer?
Je te laisse.
Cette histoire de 2017 est quand même stupéfiante. Je pense que dans 40 ans, on enseignera encore dans les manuels scolaires tellement cette
élection... Bon, elle n'est pas encore finie d'ailleurs.
Ah non, c'est pas terminé là, mais tous les jours on en a. On a eu un mandat déjà qui est très difficile, qui a été... fracturant, je dirais, je ne sais pas si ça existe, mais c'est comme ça que je le ressens pour la gauche.
Non, on comprend en tout cas.
C'est-à-dire qu'en tout cas, en 2012, on était tous très contents d'être place de la Bastille dans notre tête ou physiquement en fêtant cette victoire, parce qu'on en a quand même, on y a quand même tous contribué. Et très rapidement, la désillusion. Et c'est même pas... Il y a eu deux choses. Il y a eu les politiques, qui pour moi étaient des politiques qui ne rassemblaient pas la gauche, pour la plupart d'entre elles. Et il y a eu aussi une volonté réelle de fracturer la gauche. Moi, quand certains écologistes ont été invités à entrer au gouvernement et l'ont accepté avec plaisir contre la majorité du parti dont moi j'étais membre et j'étais la direction avec Emmanuel Cos à ce moment-là, tout ça c'était des stratégies qui ont été menées au plus haut de l'État pour essayer de faire disparaître les écolos, tout comme il fallait faire éclater le Parti communiste. Enfin, il y a eu des politiques extrêmement violentes, y compris de tactique...
Et volontariste, hein.
Ouais, c'était vraiment de la tactique pour... Moi, j'appelais ça la politique de la terre brûlée, quoi. C'était Attila, fallait que tout crame, sauf eux. Et en fait, ils ont cramé aussi, quoi. Donc,
ouais,
le moment où... Enfin, Manuel Valls, en fait, quand Cécile Duflot quitte le gouvernement... en 2014 avec Pascal Canfin, qui était quand même une volonté manifeste de la majorité des militants de notre parti, il y avait deux problèmes. Il y avait un problème Manuel Valls, non pas de relations humaines, mais de ce qu'il incarnait, de ce qu'il souhaitait, de la manière dont il voulait gérer l'État, qui posait problème. Mmh. Et il y avait une problème de ligne politique depuis quelques mois au sein de ce gouvernement. Et donc, ce combat, on a pu le mener seul à des moments, et puis il y a eu les frondeurs, et puis il y a eu des militants socialistes de base qui disaient qu'ils en avaient ras-le-bol aussi. Donc nous, on a commencé notre campagne présidentielle comme beaucoup d'autres. Et puis, séisme au moment de la primaire socialiste, à laquelle moi j'ai participé aussi, et c'est la première fois de ma vie que je vote pour le gagnant, donc je suis super contente. et voilà, Benoît Hamon gagne. Et cette victoire de Benoît Hamon, c'est un séisme, parce que personne s'y attendait, mais c'est aussi un séisme pour nous, parce que Benoît Hamon, en fait, nous donne raison peut-être 3 ans après. En fait, cette victoire, c'est aussi notre victoire.
Okay.
Cécile, Duflot, ça a été la première à quitter le gouvernement en disant « Valls, je peux pas », même avant Benoît Hamon. Uh-huh. En disant « Cette politique, je peux pas » et « Valls, je peux pas ». Pareil pour Pascal Canfin et pareil derrière eux pour l'ensemble du parti. Et donc, ce moment où un frondeur gagne la primaire sur nos idées, il gagne la primaire, ce qui fait la différence, ce qui le rend singulier, c'est qu'il prend notre programme.
D'accord.
Alors, je dis pas qu'il a recopié, que c'est mal et tout ça. Nous, c'est libre de droit, c'est fait pour circuler. C'est l'économie circulaire, quoi. Donc, tant mieux si ça sert à Jean-Luc Mélenchon, tant mieux si ça sert à Benoît Hamon. Et ce moment où nous, on est un peu dans le vague, dans les sondages, et on se dit que Benoît Hamon, il va peut-être pas faire 60% en premier tour, mais qu'il a peut-être plus de chances de faire un meilleur score et que ça se fait sur nos idées, on se dit que c'est intéressant. C'est très différent de l'histoire du « faut se rassembler à tout prix, sinon on va perdre ». Notamment ce qu'on disait au régional.
Oui.
Moi, j'ai pas de problème pour me rassembler quand c'est sur une cohérence politique. Au régional, ça n'était pas le cas, puisqu'on était encore dans le cadre d'un gouvernement qui menait une politique que nous, on désapprouvait. Et moi, d'accord. En fait, je suis capable de travailler en alliance électorale au premier tour avec des gens quand je sais que c'est pour porter la même chose. Mais des alliances bidouillées au pif, juste parce qu'on a trop peur du Front National, ça ne marche plus. Le vote de barrage ne marche plus parce que les gens, ils veulent pas voter. Enfin, ils se rendent bien compte qu'en fait, on appelle à leur peur pour voter soi-disant utile, plutôt que faire appel à leur envie, à leur cerveau, à leur réflexion. Et peut-être que c'est parce que certains politiques n'ont plus que ça à leur vendre. Ouais. N'ont plus que des ordres à leur donner, des injonctions au vote utile, parce qu'ils n'ont plus de programme qui leur fait envie, de raison d'espérer, d'aller de l'avant. Et donc ça, c'est plus possible. Par contre, Benoît Hamon, c'était différent. C'était vraiment sur un projet qui est le nôtre, et donc forcément, d'accord, nous, qui nous faisait envie. Ce qu'on souhaitait d'ailleurs, c'était pouvoir le faire à trois avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Benoît Hamon. Et là, peut-être aurions-nous une réelle chance d'être au deuxième tour, ce qui pour l'instant n'est pas le scénario, je ne vous le cache pas, le plus probable. Oui. Jusqu'au bout, ça va être possible. 2017, c'est l'élection où tout est possible, le pire ouais. comme le meilleur, pour l'instant beaucoup le pire. Et donc voilà, le match n'est pas terminé, mais c'est vrai que moi je comprends les copains de la France insoumise, je comprends cette volonté de dire bah oui, mais on l'a dit avant tout le monde et on avait raison avant tout le monde et OK. Mais je pense que du coup, c'est un peu une impasse aussi quoi parce que ça sert à rien d'avoir raison tout seul.
D'ailleurs, effectivement sur le terrain, beaucoup de militants, de militantes et même de non-militants s'interrogent sur cette dispersion finalement.
Bah, moi je le dis de manière d'autant plus tranquille qu'aux élections départementales et aux élections régionales, j'étais sur des listes communes avec les copains du parti de gauche à l'époque qui sont maintenant la France Insoumise et qu'on a énormément en commun. Vraiment, il y a des différences, on en parlera peut-être tout à l'heure sur la politique internationale, mais sur le reste, on est d'accord sur l'essentiel.
Très bien.
Donc c'est vrai que c'est frustrant.
Très bien. Ben, on va... tout à l'heure à rentrer effectivement peut-être dans le détail de ce que tu as évoqué comme étant le fait que Benoît Hamon a intégré complètement les propositions que formulait Yannick Jadot. Mais peut-être avant ça, si tu veux bien, comment ça se passe une campagne pour toi personnellement et puis pour les Verts d'une manière générale? Qu'est-ce que vous faites? Tu parlais du marché.
La campagne de Benoît Hamon spécifiquement ou en général?
Dans cette campagne aussi, des présidentielles, donc pour ce qui te concerne Benoît Hamon.
Alors c'est vrai que cette campagne, c'est un peu la blitzkrieg, quoi. C'est-à-dire que Benoît Hamon, il a été désigné très tard. La date de la primaire socialiste était très tardive parce qu'elle était faite au début, je rappelle, pour François Hollande. Et puis on est dans un contexte où on a du mal à parler de fond. On parle surtout des affaires, ce qui est aussi un peu frustrant. Mais nous, on a rejoint ça encore plus tard. Et donc on arrive dans un moment où il ne reste plus que 6, 5, 4 semaines de campagne. Donc j'allais dire, on fait comme on peut. On s'est rapproché dans les territoires où on milite, c'est-à-dire que ça se passe vraiment par le local. On est chacun dans des villes où on connaît les copains socialistes. Moi, Hénin, je suis élue avec eux. Donc voilà, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est que moi, mes collègues socialistes à Hénin-Beaumont, quasiment tous avaient voté pour Benoît Hamon au congrès. C'est-à-dire que c'était pas, je pense que c'est pas le cas dans toutes les villes du bassin minier, mais en tout cas, Hénin-Beaumont, c'est 80% avaient voté pour la motion B, la motion de Benoît Hamon. Et donc, c'est des gens qui, eux aussi, ont souffert du mandat. Et moi, ce qui m'a toujours touché, c'est que je me dis, pour eux, c'est la double peine. C'est-à-dire que les gens disent, on en a marre des socialistes et tout ça. Et eux, à la fois, ils ont la difficulté de soutenir ce gouvernement parce qu'ils ont ces doutes sur la déchéance de nationalité, sur la loi travail, c'était dur. Et en plus, ils se prennent tous les gens qui les engueulent sur les marchés, sur des sujets qu'ils n'ont pas choisis et qu'ils n'assument pas. Donc, c'est des gens, je comprends leur truc et je sais que quand ils soutiennent Benoît Hamon, c'est pas un truc hypocrite, quoi. C'est vraiment un truc sincère. Donc, on fait les marchés ensemble. Moi, après, les marchés, je les ai quasiment toujours faits. Les vendredis matin, que ce soit pour faire mes courses ou avec des tracts. Et d'ailleurs, dans les deux situations, on fait quand même un peu de politique. Les gens viennent nous voir, on discute. Et là, ce matin, j'étais encore avec deux copains du Parti Socialiste qui les font aussi assez régulièrement. Donc, ça se passe bien parce que les gens ont l'habitude de nous voir. Et d'accord. Donc là, en fait, j'étais surprise. Au début, je me disais, les gens ne vont peut-être rien comprendre que je sois un jour avec des tracts verts, le lendemain avec des tracts Benoît Hamon. Et en fait, ça s'est passé de manière très, très fluide. On est très bien reçus, mais Hénin-Beaumont, c'est un marché où paradoxalement, les gens ont toujours l'impression que c'est une ville éphémère, que les gens vont nous cracher la gueule. Mais ça, c'est un mythe, quoi. C'est-à-dire que vraiment, le marché d'Hénin, ça se passe tout le temps bien, parce que les gens sont gentils. C'est le bassin minier, c'est la chaleur et la convivialité. Et donc, ouais, plutôt un bon accueil. Puis surtout le fait qu'il n'ait pas d'affaires. C'est quelqu'un d'intègre, d'éthique, et donc il n'y a personne qui va dire, et sa femme, et son fils, et ses d'accord. emplois, et tout ça. Donc ça, c'est quand même un confort et c'est un candidat que j'ai aucun scrupule, aucun remords à soutenir. Vraiment, je le fais de manière pleine et entière. Alors après, ça, c'est le niveau local. Moi, je suis également engagée au niveau national dans la campagne pour deux raisons. La première, c'est que je suis la direction d'Europe Écologie Les Verts et donc qu'on a été partie prenante dans ce processus de fusion, d'émulation. Et que,
il y a une trentaine de membres d'Europe Écologie Les Verts qui sont dans l'organigramme de campagne de Benoît Hamon.
Voilà, et donc je suis aussi dans l'organigramme de campagne de Benoît Hamon. Alors là, c'est sûr que ça ne me prend pas toutes mes journées parce que c'est un organigramme politique, en fait. C'est les gens qui sont là pour trancher. On n'est pas toute la journée à faire les notes. Il y a des salariés. D'accord. Et après, l'organigramme politique est là pour donner des directions, pour donner des pistes, pour essayer de donner une cohérence à tout ça. Et donc, ça me prend un peu de temps par jour, passer quelques coups de fil, voir quand il y a besoin de... Enfin, voilà, dès que j'entends quelqu'un à la télé, François Fillon qui dit ça, je dis, tiens, ça me donne une idée, je vais envoyer ça à un tel, etc. Donc voilà, et donc du coup, au niveau professionnel, je suis passée à mi-temps là depuis 15 jours pour d'accord. pas mélanger tout et pour, à la fois pour pouvoir bien faire cette campagne et puis pour pas toujours être en train de me dire, mais là, c'est avec les histoires en plus du Penelope Gate, c'est hyper stressant, mais moi, j'ai toujours fait toutes mes campagnes, j'ai toujours été en congé sans solde pendant les campagnes législatives, etc. Bon, là, je suis pas candidate à la présidentielle, donc j'avais prévu de le faire faire plus tard pendant les législatives, et finalement je l'ai fait maintenant parce qu'il se passait tellement de choses que ce dernier mois va être haletant.
Très bien. Alors peut-être, je reviens sur les marchés, qu'est-ce qui préoccupe les gens? Quelles sont les questions? Quelles sont les remarques? Ou alors c'est toi qui viens avec tes préoccupations, enfin,
c'est plutôt moi qui mets des sujets. C'est rare que les gens, enfin, si les gens viennent me voir, c'est pour un problème ultra ultra local, parce qu'il y a un trou dans leur trottoir ou parce qu'ils ont vu le conseil municipal à la télé et que ils disent ah, bah dis donc c'était violent, comment ça se passe. Donc ça arrive. Après moi j'aime bien mettre moi les sujets que je souhaite sur le tapis. Et là par exemple ce matin, on est au début du printemps, c'est la semaine d'alternative aux pesticides, et donc on avait fabriqué avec des copains des petits sous forme d'origami, en fait, des sachets de graines.
D'accord.
Et donc, je distribuais pour le printemps des graines bio aux gens. Donc, je disais, je vous offre des graines bio. Alors, souvent, ça entamait une discussion. Ah bon, c'est des graines de quoi? Donc, j'expliquais que c'était des graines de fleurs mielifères qui allaient favoriser la pollinisation. Alors, ils disaient, bah oui, mais comment je fais? Alors, j'ai pas de jardin. Je dis, bah, vous le mettez sur un rond-point, vous le mettez dans une jardinière, sur votre balcon. Et donc, je disais, si 100 personnes font ça à Hénin cette semaine, ça a vraiment un impact sur les abeilles. C'est-à-dire que vous, c'est un geste, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit sachet, mais si toi, plus toi, plus toi, vous le faites, à la fin, ça, c'est un peu la fable du colibri de Pierre Rabhi, quoi. Et donc, les gens se repartaient, déjà, ils étaient contents qu'on leur ait offert un truc, quoi, et ils repartaient en disant, ah, c'est une super idée, bon, je suis pas tout le temps écolo, mais là, je vais le faire, ça m'a motivé, mais il n'y a pas toutes les abeilles qui vont venir chez moi, quand même. Non, non, ça va être partagé, bon, bah, c'est bon, on fait ça. Oui, oui, j'ai entendu que les pesticides, c'était très dangereux pour les abeilles, il faut faire quelque chose. Et donc, du coup, ça a engagé un vrai débat de fond. Il y a des gens qui disaient, c'est quoi mielifère, c'est quoi la pollinisation. D'accord. Enfin, c'était vraiment intéressant, et je pense que c'est le genre d'action concrète qu'on devait faire plus souvent.
Très bien. Écoute, je te remercie, Marine. On va s'interrompre quelques instants pour une petite pause musicale. Voilà. Donc, on est toujours sur Micro Rebelle, hein, à la fois sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. Diffusion le mardi soir à 18h. Notre petite pause musicale, hein. Tout à l'heure, Marine évoquait le fait que le programme d'Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot avait été repris par Benoît Hamon, que ça lui posait pas de problème parce que c'était libre de droit. Bah, à Micro-Rebelle, justement, sur cette question de libre de droit, on ne diffuse que de la musique libre, hein, autrement dit de la musique dont les créateurs ont souhaité mettre à disposition du public largement toutes leurs œuvres. Et donc, je vais vous proposer d'écouter un groupe qui s'appelle Spleen, et un morceau qui s'intitule « Au cœur des villes », hein, c'est de la chanson française, hein, c'est un mélange d'acoustique et d'électro, avec des influences extrêmement variées, donc je vous laisse écouter « Au cœur des villes », Spleen.
Au cœur des villes, des hommes aussi, je sens la pluie et se l'ennui. Le long des trottoirs, au cœur des villes, défile la nuit. Qui rigole le long des trottoirs, au cœur des villes, halluciné. Au corps des filles, cherche espoir. Au sein des villes, le long des comptoirs.
Bien, on est toujours sur Débattre la campagne, hein, sur microrebelle.fr et sur Radio Plus 104.3. Donc, nous sommes avec Marine Tondelier. Alors Marine, si tu en es d'accord, on va peut-être maintenant rentrer justement un peu plus dans les propositions écologistes, les propositions qui ont trait à l'écologie et qu'on retrouve dans le programme de Benoît Hamon. Alors typiquement, je vais prendre comme point de départ une interview que j'ai lue de Benoît Hamon dans laquelle il disait « Je ne crois plus dans le mythe de la croissance ». Est-ce que, dont je pense que c'est sans doute une des propositions, un des traits qui viennent du programme de Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que tu peux développer cet aspect, le mythe de la croissance ?
Vaste programme aussi. C'est que la croissance, ça veut rien dire en fait. Premièrement, la croissance de quoi ? Donc il y a toutes les questions sur les outils de mesure de la croissance. Et quand on parle de PIB, est-ce que tout ce qui est dans le PIB, c'est bien que ça croisse ? Est-ce que les ventes d'armement, c'est bien que ça augmente ? Est-ce que les dépenses de santé, c'est bien que ça augmente ? Enfin, tout ça, c'est des questions vraiment compliquées, quasi philosophiques. Et puis la deuxième question, c'est que de toute façon, la croissance, en fait, elle est déjà plus là. Elle est déjà plus là. On en fait l'expérience au quotidien. Ça fait quand même des années, il y a eu un choc pétrolier, il y a eu la crise, et puis une crise qui dure maintenant depuis 40 ans, c'est que c'est plus qu'une crise en fait, c'est que structurellement on a peut-être atteint le plafond de verre au niveau de la croissance, et ça rejoint d'ailleurs les théories économiques et notamment les courbes qui montrent qu'en fait on a affaire à une asymptote, et donc c'est-à-dire qu'au début du développement d'un pays ça augmente très très vite avec des croissances comme on peut connaître en Chine, en Inde, etc. Et puis qu'au moment où le pays est vraiment développé, on ne peut pas croître autant et indéfiniment, ce qui d'ailleurs d'un point de vue intellectuel paraît plutôt logique. Donc principe-là.
Par rapport aux ressources naturelles, typiquement.
Oui, mais par rapport à tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer. Enfin, il peut y avoir des révolutions technologiques, mais ce n'est pas infini, quoi. Rien n'est infini, à part l'univers. et du coup, on se dit qu'il y a deux solutions. Soit on continue, comme certains politiques le font, d'expliquer qu'on va aller chercher la croissance avec les dents et qu'on vous promet qu'elle va revenir, on y travaille et qu'on démissionnera s'il n'y a pas de croissance, mais que vraiment on vous promet qu'elle va revenir, alors qu'on... elle reviendra pas, en fait. Soit on se dit, on prend acte du fait que la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et donc, puisqu'elle ne veut pas arriver, on va apprendre à vivre mieux sans croissance.
D'accord.
Non pas parce qu'on veut plus de croissance, mais parce que de toute manière, elle ne reviendra pas, en tout cas pas dans les proportions qu'on l'a connues dans le passé. Et donc, on réfléchit à des questions très intéressantes et qu'on va... de toute manière devoir se poser comment on crée de l'emploi sans croissance, comment on crée du bonheur sans croissance, comment on crée de la solidarité sans croissance. Et c'est vraiment les défis pour moi du 21e siècle. Et qu'un socialiste dise ça, alors que c'était le gros débat qu'on avait entre écologistes et socialistes et qui structure tout, qui structure nos débats sur le nucléaire, qui structure nos débats sur le CICE, sur l'emploi, sur le revenu universel. Entendre un socialiste dire ça, c'est très émouvant.
Oui.
C'est émouvant. Quand on était à la présentation de son projet, et donc il y avait Jean-Christophe Cambadélis au premier rang, et voilà, quand j'entendais Benoît Hamon dire en 2025, il n'y aura plus aucun nouveau véhicule diesel mis sur le marché. Quand il disait nous allons sortir du nucléaire en une génération. Et je voyais devant, je vérifiais qu'il allait bien quand même, parce que c'est... je me dis pour eux c'est fou. Donc pour eux c'est fou, et c'est peut-être dur. Et pour nous... moi, j'ai que 30 ans, donc je ne milite pas dans ce parti depuis 40 ans comme les premiers antinucléaires. Mais je me dis, pour les copains qui ont connu les combats, la centrale Superphénix, les premiers combats antinucléaires, qui ont fait Bure, qui ont fait Flamanville, qui ont fait Notre-Dame-des-Landes, se dire que tout d'un coup, maintenant, il y a un candidat socialiste qui, dans son programme, explique qu'il ne fera pas Notre-Dame-des-Landes, qu'il n'enfouira pas de déchets nucléaires à Bure, qu'il n'ouvrira pas l'EPR de Flamanville, qu'il va sortir du nucléaire et qu'il va arrêter la production de véhicules diesel. Je me dis, quelle émotion pour les 40 ans de combat qui ont précédé. C'est-à-dire que la bataille culturelle est gagnée. Électoralement, on n'a pas gagné.
D'accord.
C'est peut-être pas fini, hein, mais pour l'instant, électoralement, vraiment, on n'a pas gagné. Mais sur la bataille culturelle, on a gagné. Et c'est quand même la plus belle des victoires. Moi, je préfère gagner finalement culturellement que politiquement. C'est que nos idées ont gagné, et que quand je pense à des copains qui, il y a 40 ans, disaient que les gaz d'échappement, ça a causé des maladies, et que tout le monde les regardait en rigolant en disant « Non, mais ça suffit, t'as fumé trop de cannabis, tu racontes n'importe quoi », et maintenant, c'est une évidence pour tout le monde. Donc voilà, sur les constats, la compréhension des constats, je pense qu'on a gagné. Maintenant, il faut mettre en place ces solutions.
Ouais.
Et ça, c'est pas la plus mince affaire. Ouais. Parce que ça veut dire que déjà, il faut gagner les élections, quand même. et c'est un gros défi. Et puis, ça va prendre des années. La transition, c'est pas quelque chose de simple. Et donc, il va falloir garder d'ailleurs cette bataille culturelle qu'on a gagnée. Il va falloir continuer de la gagner, même quand on mettra en place la transition, ce qui sera peut-être pas toujours simple. Et là aussi, c'est le gros chantier du 21e siècle. Et j'espère pouvoir y contribuer le plus longtemps possible.
Alors justement, cette question de gros chantier, cette question de transition, cette question de sortir de la croissance, est-ce que finalement, c'est pas, si on pousse un peu le raisonnement plus loin, est-ce que c'est pas finalement une remise en question du système? Autrement dit, est-ce que le système, le capitalisme, n'a pas besoin intrinsèquement, congénitalement de croissance? Et donc, remettre en cause la croissance, est-ce que c'est remettre en cause le capitalisme?
Mais pour moi, c'est même pas nous qui remettons en cause la croissance. C'est que c'est fini, en fait. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est... On va dire, bon, alors, attention, on va faire une réunion du Conseil des ministres en disant, on arrête la croissance. Franchement, ça nous intéresse plus. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. En vrai, c'est qu'il y en a plus et que les politiques vont peut-être le comprendre 20 ans après qu'elle se soit arrêtée. Donc, pour moi, ça marche dans l'autre sens. Après, si la question, c'est de savoir, d'avoir le lien entre capitalisme et écologie, oui, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce que le capitalisme, en tout cas, les lois du marché ne sont pas faite pour intégrer les questions écologiques. Le capitalisme, il est, c'est pas qu'il est pour ou qu'il est contre l'écologie, c'est que c'est pas dans son logiciel. C'est pas dans ses calculs, c'est pas comme ça que ça marche. C'est alors deux mondes parallèles.
Alors comment tu poses les questions écologistes face à l'économie de marché, face à côté, dedans, comment tu les poses ces questions?
Déjà, c'est pas forcément moi qui les pose, c'est qu'elles se posent. Quand on parle changement climatique, d'ailleurs, c'est intéressant de voir les effets des crises écologiques sur l'économie. Quand on prend par exemple la pollution de l'air, chacun sait que la pollution de l'air, ça crée des maladies et que du coup les enfants ont des allergies et qu'il faut en sortir pour des raisons de santé. Mais si on se prend au jeu de l'économie capitaliste et qu'on dit ok, calculons le coût pour la France de la pollution de l'air, on arrive à 100 milliards par an en comptant tout. En comptant l'usure précoce des bâtiments, en comptant les gens qui sont malades et qui, du coup, le coût de leur non-travail et la prise en charge par la sécurité sociale et les indemnités journalières et les morts prématurées, et vraiment en comptant tout, 100 milliards par an.
Ce qui est d'ailleurs aberrant, c'est que tous ces processus, hein, combattre la pollution, ça rentre dans le PIB, donc ça rentre dans la croissance.
Quoi. Exactement.
C'est complètement ahurissant.
Tout comme produire une arme nucléaire et même peut-être la faire fonctionner. Enfin voilà. C'est quelque chose de fou, de amoral en fait. Et ce que je viens de faire comme calcul sur la pollution de l'air, on peut le faire sur tout. On peut le faire sur le réchauffement climatique. Et les milliers et même les centaines de milliers de réfugiés climatiques qu'on aura à gérer, en fait, je pense que même ça se compte en millions. Et donc les réfugiés climatiques, on pense aux pauvres habitants des Maldives, mais en fait, dans la zone de Dunkerque, il y a 400 000 personnes qui, dans les 50 ans à venir, seront concernées par la montée des océans, qui devront quitter leur logement dans les 50 années à venir. Et c'est pas pour vous inquiéter, mais Gravelines, en plus, est dans la zone qui risque de finir un peu sous la flotte, puisque c'est la seule plus grosse centrale nucléaire d'Europe. On a la chance de l'avoir chez nous, mais en plus, c'est la seule qui soit construite en zone submersible. Ce qui est quand même, je sais pas qui a pris cette décision à l'époque, mais c'est quand même un peu baroque. Et avec, en fait, dans le bassin de là. Et voilà, c'est quelque chose de fou quand on y pense.
C'est clair.
Et je suis de la génération qui connaîtra Gravelines les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que même si on arrive à arrêter de la faire fonctionner, j'espère quand même un jour, comme c'est 60 ans la durée de vie et qu'elle s'en approche, j'espère que ça ne va pas durer encore 40 ans, mais comme on n'a jamais réussi en France à démanteler une seule centrale nucléaire, puisqu'on avait commencé à en démanteler une et comme ça ne se passait pas très bien, on a tout arrêté. Voilà, la question, c'est les déchets radioactifs qui sont là, ils seront encore là. Les piscines avec les fûts qui sont à tremper pour décontamination, ils seront encore là. Est-ce que le site sera décontaminé quand la mer arrivera?
Effectivement.
Voilà.
Effectivement.
Et vive le capitalisme.
Alors écoute, justement, on va continuer à échanger autour des passerelles entre l'écologie et puis le reste. Hein. Donc là, l'écologie et l'économie de marché. Et maintenant, je te propose un petit peu de parler d'écologie et puis de cause sociale. L'écologie, la pauvreté, l'écologie et les riches, l'écologie et les inégalités. Tout à l'heure, tu évoquais par exemple l'engagement d'Europe Écologie Les Verts contre la loi travail. Donc, la loi travail, c'est aussi des questions sociales. Comment tu articules ces deux mondes finalement, l'écologie et les inégalités sociales?
Premièrement, il y a un constat évident, c'est que les premières victimes des crises écologiques sont souvent les plus précaires.
C'est clair.
Et pour reprendre la pollution de l'air, parce que c'est mon sujet favori du moment, c'est celui que j'ai beaucoup travaillé, en Ile-de-France, par exemple, les premières victimes de la pollution de l'air, en fait, c'est les gens qui habitent au bord du périphérique ou au rez-de-chaussée. Et en fait, en une rue, à une rue d'écart, ça va être multiplié par 10 le nombre de particules, parce que vraiment au bord du périph, on respire ça tout le temps. Et donc, si on veut avoir une politique égalitaire, on doit faire de l'écologie. D'accord. Et on doit en faire pour tout le monde. Quand on dit qu'on veut mettre des repas bio et locaux, obligatoire dans toutes les restaurations collectives en France, c'est-à-dire dans les cantines pour les enfants, dans les EHPAD, etc. Ça permet que chacun, tous nos enfants, tous nos aînés, aient accès au moins une fois par jour à un repas avec dedans du bio et du local. Donc, outre que ça aide en plus la filière agricole, parce qu'on se remet à consommer des filières courtes et que ça va aider les agriculteurs à vivre mieux, plus ça crée du lien social, parce que l'agriculteur, quand ils vont à telle école et qu'il sait que c'est les gamins de telle école ou les personnes de telle EHPAD qui vont manger ses choux de Bruxelles, c'est hyper... Enfin, on retrouve aussi un sens dans son métier plutôt que les trucs qui vont aller être emmenés je sais pas où, être transformés, revenir je sais pas où, il sait même pas qui les mange à la fin. Donc c'est tout ça, c'est vraiment un tout, c'est-à-dire qu'on aide les producteurs à vivre mieux, on aide les consommateurs à consommer mieux et donc à être content de consommer et à le faire en meilleure santé, et donc ça aide tout le monde. Après, il y a une chose simple qui est liée en fait à la définition de l'écologie, c'est que l'écologie, c'est le lien entre nous et notre écosystème. Et notre écosystème, c'est aussi les autres êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'on pose souvent la question, est-ce que l'écologie, c'est de droite, c'est de gauche? Enfin, l'écologie, c'est d'écologie, déjà. Ouais. Et quand les gens disent, oui, mais moi, je suis droite et je suis écolo, et je trouve que ça devrait pas être de... Je vois pas le rapport. Ils disent des fois, je vois pas le rapport entre l'écologie et les robes. C'est le truc qui vient souvent dans le bassin minier. Et je dis, bah, moi, je le vois. Parce que le rhum, c'est surtout un autre être humain. Et que quand je croise un autre être humain, j'interagis, et que pour moi, il existe. C'est pas quelqu'un dont je veux faire semblant qu'il n'existe pas et dont je vais pas me préoccuper parce que c'est plus confortable comme ça dans ma vie. Il fait partie de mon écosystème. Et je pense d'ailleurs que, pour pas juste parler de profit et de santé, enfin de trucs très utilitaristes, pour le bonheur, je pense qu'on est plus heureux quand on est gentil et quand on partage dans la vie. Quelqu'un qui essaye de s'enfermer dans sa coquille de manière égoïste avec son travail, sa famille, sa bagnole, son truc... Il va se faire son petit cocon, peut-être que ça va faire illusion quelque temps, mais à la fin, on peut pas être vraiment heureux tout seul contre les autres. On peut être heureux qu'en interagissant, en étant fier de ce qu'on fait, en étant fier de ce qu'on partage, et en voyant dans le regard des autres qu'on vit dans le même monde, quoi. Et donc ça, c'est un truc qui m'a toujours échappé dans les gens qui sont racistes, qui sont xénophobes. Vraiment, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Et je leur souhaite aussi d'être très heureux, mais je pense qu'ils le seraient plus en s'ouvrant sur ces sujets-là aussi.
C'est intéressant ce que tu dis sur cette question du bonheur, mais est-ce que quelque part ça gomme pas toute idée de conflit? Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas finalement des adversaires, y compris concernant l'écologie?
J'ai pas compris la question.
Je dis que c'est intéressant ton approche du bonheur. Ouais. Je pense qu'on peut partager sans aucun souci, mais est-ce que quelque part ça gomme pas le fait que... on a une situation conflictuelle avec quand même un certain nombre d'adversaires politiques, y compris dans le domaine de l'écologie.
Ah bah, je suis très bien placée pour savoir que j'ai des adversaires politiques. Après, mais même dans la manière de combattre, si j'étais dans une lutte à mort contre le Front National, complètement crispée, que ça m'obsède, je pense que je serais déjà plus là au bout de 3 ans.
C'est pour ça que moi, à tes personnages, je préfère parler... Enfin, je parle jamais d'ennemis, toi non plus, je t'ai pas entendu, mais une lutte à mort, c'est quand on a des ennemis, mais...
Oui, bah là, on parle quand même du Front National, et donc je pourrais me dire, c'est la croisade, quoi. Ouais. Et en fait, quelque part, ça l'est. Enfin, ce qu'on vit à Hénin, c'est une guerre, des deux côtés. Mais quand on essaye de le faire, par exemple, moi, je fais beaucoup de yoga. Il y a un truc bête qui va peut-être paraître bisounours à certains, mais le fait de pouvoir, même quand je me prends devant 10 élus qui m'insultent et derrière 200 du public qui applaudissent et qui exultent et tout ça, le fait d'être dans mon truc et de respirer normalement et d'avoir le pied au sol et tout ça, ça fait qu'en fait, quelque part, je suis invincible.
D'accord.
Et que du coup, bah, je continue à revenir parce que je me dis que déserter ce terrain-là, ce serait les laisser gagner une deuxième fois. Et donc, je pense que c'est une force formidable. Après, oui, on a des ennemis, notamment les lobbies du profit, les lobbies de la rente, les lobbies du diesel, les lobbies du nucléaire. Et pour avoir été collaboratrice parlementaire au Sénat sur les questions justement de santé environnementale et sur l'huile de palme et sur l'aspartame et sur le diesel et sur tous ces sujets-là, j'ai vu leur force. J'ai vu leur force et j'ai vu tous ces textes où on m'explique que l'écologie, ça devrait pas être un parti, ça devrait être partout et ça devrait être tout le monde, certes. Sauf que la loi sur le diesel qu'on avait présentée en 2014 ou 2015, si mes sujets sont bons, elle a eu 10 voix. Les 10 voix des 10 sénateurs écologistes. Plus, pour être tout à fait honnête, celle de Chantal Jouanneau. Et Et voilà, donc moi je veux bien qu'on dise qu'il faut que tout le monde soit écologiste, je suis d'accord, mais pour l'instant, heureusement qu'il y a quand même des élus écologistes qui portent ces sujets-là jusqu'au bout. Et le poids du lobby, des lobbies était extrêmement violent. Moi je me rappelle sur l'aspartame sur l'huile de palme, donc moi j'écrivais les amendements des écologistes qui étaient portés par Aline Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis, et on recevait tous les sénateurs des argumentaires du lobby qui disaient l'aspartame c'est pas dangereux, la preuve. Alors c'était des études très scientifiques financées par eux-mêmes, donc forcément ils étaient d'accord avec eux-mêmes. Et ce qui m'a stupéfait, c'est de voir la porosité entre lobby et politique. Parce qu'on avait des élus, souvent de droite, je dois le dire, qui se levaient en hémicycle en disant « Mais Madame Archimbaud, vous n'avez rien compris. Regardez cette étude et ils lisaient, mais mot pour mot, sans même avoir changé une virgule, l'argumentaire du lobby qu'on avait reçu. » Et donc c'était quand même des moments un peu, un peu flippants.
C'est clair.
Donc oui, on a des ennemis, il ne faut pas être naïf. Mais en étant un peu détendu et en les prenant parfois, par exemple, l'humour est une arme plus redoutable que les insultes. Bien sûr. Donc je pense que quand on est écolo, qu'on a un peu de recul sur les choses, le mental compte beaucoup là-dedans et que la manière de porter ces sujets fait que peut-être on pourra les porter plus longtemps. Mais parce que l'écologie s'est construite dans la lutte. Quand on voit des copains qui se battent à Notre-Dame-des-Landes depuis 40 ans, moi, des fois, je dis à la gloche, je dis, vous comprenez pourquoi je suis chiante, quoi. Si on n'était pas là, Notre-Dame-des-Landes, il y aurait déjà trois pistes et on arriverait par cet aéroport-là. Donc voilà, le secret du guerrier, c'est de durer. Et pour durer, il faut adapter aussi ses combats.
Très bien. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour aller vers la fin de cette émission. Tu as évoqué tout à l'heure des aspects du programme de Benoît Hamon. Notamment, tu évoquais la politique étrangère. On dit aussi, est-ce que sur la question de l'Europe, Mélenchon et Hamon n'auraient pas pu se rejoindre? Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de cette question de la politique étrangère, en particulier de l'Europe, du côté de chez Benoît Hamon?
C'est marrant parce que c'est pas ce sujet-là que je pensais en premier, c'était plutôt au sujet de la Russie, en fait. Moi, c'est ça qui me préoccupe, mais sur l'Europe...
J'allais y venir, mais tu peux commencer, je te laisse faire.
Que pour moi, c'est ça le plus crispant, c'est que moi j'ai été, on avait monté avec le maire d'Alep, qui n'est pas vraiment maire d'Alep, tout le monde critique ça, c'est sûr, il n'y a plus de ville, donc c'était des comités locaux qui ont fait des élections citoyennes, et donc il avait été désigné représentant d'Alep par les citoyens d'Alep, il était venu à Paris lancer une alerte en décembre dernier, et puis on l'avait reçu avec une délégation d'écolos. Et on avait dit, comme tout le monde, quoi, on comprend bien, c'est horrible, parce qu'à l'époque, c'était le 100e jour de siège de Alep, et il disait, moi, je vais vous expliquer là-bas, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de médicaments, ça fait 5 jours qu'on opère les gens sans aucun anesthésiant, dans les caves, parce que les hôpitaux sont détruits, donc on le fait dans les sous-sols, que les médecins, de toute façon, sont pris dans le siège d'Alep, mais que Bachar el-Assad explique que les médecins sont des terroristes qui aident des terroristes. Alors qu'en fait, c'était des gens qui étaient médecins, qui se sont retrouvés là au moment du siège et qui, quand ils voient un gamin blessé dans la rue, se posent pas la question de savoir si c'est le fils d'un rebelle ou le fils d'un citoyen d'Alep. Enfin voilà, c'était des questions extrêmement dures. Et quand on lui disait qu'est-ce qu'on peut faire, il nous a dit tout le monde me dit qu'il est désolé, mais personne ne fait rien. Et donc il dit la seule manière de m'aider, il faut aller là-bas. Et donc on dit d'accord. Je me rappelle de Cécile Duflot qui me dit Marine, vois ce qu'on peut faire. En se disant, nous, on pensait, on va organiser ça. Et lui, il dit, en fait, il faut y aller avant la fin de la semaine parce qu'il n'y aura plus d'Alep la semaine prochaine. C'est la fin de l'eau et la fin de la nourriture, donc c'est aussi la fin du siège. Et donc, on lance un appel à tous les parlementaires français et on se retrouve avec Hervé Mariton, curieux d'ailleurs, on ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui réponde en premier, et Patrick Mennucci, qui est élu, lui, socialiste dans les Bouches-du-Rhône, et donc à aller raccompagner le maire d'Alep. On voulait le raccompagner jusqu'à Alep, mais c'était beaucoup trop dangereux. Puis jusqu'à Azaz, qui est une ville en banlieue d'Alep. Et en fait, à la frontière turque, les autorités ne nous ont jamais laissé passer. Mais toujours est-il que c'est avoir été sur place, avoir vu les rebelles, avoir vu les dispensaires où les Syriens sont soignés, ça m'a vraiment ébranlée. Et que je me suis dit que ce que faisait Bachar el-Assad, c'était pas possible. Que la lutte contre le terrorisme devait être une priorité dans le monde, certes, mais qu'elle ne devait pas justifier de mélanger tout, parce qu'en fait, ce que fait Bachar el-Assad, c'est qu'au nom de la lutte contre les terroristes, il extermine aussi ses opposants politiques, sont les rebelles. Et en fait, de loin, on se dit, c'est des rebelles, ils cherchent un peu l'embrouille. Mais en fait, vu de près, je peux vous dire que les rebelles, en fait, c'est toi et moi là-bas. C'est-à-dire que si on était en Syrie, on serait les premiers sur la ligne de front, puisque les rebelles là-bas, ce sont les profs d'université, ce sont les écologistes, ce sont les gens qui sont dans tous les collectifs qu'on vient de citer et qui défendent ces valeurs-là. Et donc, je me suis vraiment identifiée en disant, les rebelles, en fait, c'est nous. Et en rentrant, entendre parler de faire l'amalgame des terroristes, en disant les rebelles égale Daesh, ça m'a vraiment fait mal. Et je me rends compte qu'en fait, la propagande russe, puisque Vladimir Poutine est un gros soutien de Bachar el-Assad et qu'ils travaillent ensemble sur ce front-là, la propagande russe, elle arrive jusqu'à chez nous et portée au plus haut de l'appareil politique. par trois personnes qui ont des intérêts financiers, par Marine Le Pen, par François Fillon, qui a même produit des notes quand même pour les affaires étrangères russes. Quand on est ancien Premier ministre de la France, ça pose des questions de savoir où venaient ces informations, quels titres ils avaient eus. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui est peut-être un peu plus nuancé que les deux que je viens de citer, que je ne les mets pas dans le même sac, mais qui a une... Je ne sais pas comment dire, c'est une sorte de fascination pour Poutine. Je pense qu'il aime bien le style, qu'il est impressionné par ce qu'il peut faire dans son pays, comment il fait régner l'ordre et tout ça. Mais moi, c'est un truc qui me déstabilise, vraiment. Et je me dis, c'est compliqué d'avoir un futur président de la France. Je parle de personnes en particulier, mais qui dépendent autant... Enfin, la France a toujours été un pays indépendant. Peut-être que je suis très gaulliste sur ce point-là, mais voilà, se dire à quel point on va dépendre d'une puissance étrangère. Est-ce que demain, les alliés de Bachar el-Assad, ce sera nous par alliance interposée? C'est quelque chose qui vraiment m'interroge. Sur l'Europe, vaste sujet aussi. Je pense que moi, je suis très proche des idées de Varoufakis là-dessus, qui a créé donc l'ancien ministre grec. Bon, après, à mesurer, parce qu'il a quand même échoué dans sa mission, il a préféré partir. Donc, quand on part, peut-être que c'est plus simple aussi de partir, de dire j'en ai marre de l'Europe, allez hop, débrouillez-vous. Mais de se dire qu'il faut rénover l'Europe, moi, je suis profondément européenne. J'ai toujours grandi dans l'Europe à l'âge que j'ai. C'est une idée qui, pour moi, s'impose. Je me sens citoyenne européenne et d'ailleurs, je me sens peut-être plus belge que marseillaise par certains abords. Et c'est la géographie de notre région qui fait ça. Après, je ne me reconnais pas dans ces institutions européennes-là, clairement. Et je me rappelle quand j'étais à Sciences Po à Lille, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on apprenait et moi, des fois, je disais, mais c'est pas possible. Enfin, franchement, ces technocrates de Bruxelles. Et j'ai des copains qui, d'ailleurs, préparaient les concours pour être technocrates de Bruxelles, qui disaient, ouais, mais tu dis ça parce que tu es d'un Beaumont, tu dis comme les fachos. Et on avait vraiment cette tension-là déjà. Parce que moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller au Parlement européen parce qu'on va voir des députés européens écolos, qu'on va travailler sur des dossiers. Et c'est un lieu où je me sens mal. Rien que le lieu, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est un énorme bâtiment. Enfin, c'est l'usine à gaz, mais physique, quoi. Vous la voyez. Et c'est un lieu où on peut passer une journée, aller d'un bâtiment à l'autre, même fumer, etc., sans jamais sortir. On passe dans des tunnels de glace là, vitrés, et donc on est dehors sans vraiment jamais l'être, et ça fait vraiment vase clos.
Ça fait bureaucratie incarnée, quoi.
C'est vraiment ça, et ça me met très mal à l'aise. Parce que moi, je suis peut-être plutôt une personne de terrain, de local, et je sais que c'est un endroit où je pourrais pas travailler, ça me rendrait folle en fait. Déjà, le Sénat et l'Assemblée, c'est limite, mais encore, c'est un lieu où tout le monde se connaît, et puis on peut un peu batailler, on sait où sont les gens physiquement, enfin voilà. Mais là, il y a un vrai sujet, quoi, de gens qui en plus sont à Bruxelles, ensemble, qui sont que entre expatriés, que. Enfin, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet de combien sont payés ces gens, du coup, dans quelle réalité ça les place, de sociologiquement d'où ils viennent. Moi, ça me pose question.
D'accord. Ce qui n'empêche qu'il y a toujours cette tension entre le fait que tu te retrouves bien dans une Europe, en quelque sorte, qui serait intéressante pour les peuples, pour tout le monde, et la bureaucratie telle que tu l'as décrit, quoi.
Oui, en fait, la question, c'est quel outil on a pour secouer cette bureaucratie-là, quel outil on a pour changer l'Europe de l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas de prise. Et en fait, moi, ça me rend folle des fois sur des questions environnementales où on essaye de faire, on fait nos amendements, nos trucs, puis à la fin, on dit « Ah bah non, mais ça, c'est Bruxelles ». Alors du coup, comment on fait à Bruxelles pour aller combattre le truc?
Bien sûr.
Mais en fait, j'ai l'impression que les lobbies ont un peu plus accès que Marine Tondelier, citoyenne du monde. Donc, Et alors après, moi, je refuse... Par contre, les discours populistes sur l'Europe, quand on dit par exemple que l'Europe prend tout notre argent, etc., enfin, le Nord-Pas-de-Calais est une région qui touche beaucoup plus d'argent de l'Europe qu'elle n'en donne. Donc là-dessus, clairement, on fait partie des régions qui sont gagnantes de cette Europe-là. Après, si c'est pour payer le canal Seine-Nord, ça m'intéresse moins que quand c'est pour construire des éoliennes. Donc il y a vraiment un gros sujet sur l'Europe. Je pense qu'en plus, comme c'est loin psychologiquement, physiquement, on a du mal à appréhender. C'est extrêmement technique et même moi, des fois, je m'y perds. Donc je me dis que pourtant, comme je suis de près, c'est que c'est quand même un peu trop compliqué. Et il y a aussi une responsabilité des États qui, à chaque fois que quelque chose ne va pas dans leur pays, les gouvernants disent « oui, ben ça, c'est la faute à Bruxelles ». Et après, ils se plaignent que les gens aient une défiance envers l'Europe. Donc, il y a pour moi un vrai sujet, mais je pense qu'il faut arrêter de raconter aux gens que si on sortait de l'euro, c'est ça qui sauverait la France et que c'est le seul problème dans le monde, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça.
D'accord. Ben, écoute, si tu permets, on ne va pas aborder ce sujet-là maintenant. On va se revoir à l'occasion.
Je l'éviterai avant, alors, parce que c'est un sujet technique.
Voilà. Donc, bon, on a passé une petite heure ensemble. Hein. Marine, je te remercie pour cette disponibilité. Peut-être avoir donné quelques informations. Tu peux peut-être donner l'adresse de ton blog.
Alors mon blog, je ne connais pas l'adresse, mais il suffit de taper en fait Marine Tondelier dans Google Et on arrive sur plusieurs choses, notamment sur, sur ma page Facebook qui est ouverte. Donc, je ne peux plus accepter d'amis parce que je suis bloquée à la limite des 5000, mais vous pouvez suivre la page et quand même envoyer des messages. Je réponds toujours. Et puis, sinon, le blog, c'est ce qui arrive aussi rapidement sur Google. C'est marinetondelier.wordpress.com, c'est ça, je pense?
Je pense que c'est ça, oui.
Vérifions. Et donc, j'essaye d'y poster régulièrement, pas autant que je voudrais parce que c'est... faut trouver le temps ensuite d'écrire des articles sur le blog. Donc, je suis plus... prolixe sur Facebook où j'essaye de poster toutes les semaines les actus. Mais voilà, dans tous les cas, il y a plusieurs moyens d'entrer en contact avec moi.
Très bien. En tout cas, on a prévu de te réinviter. Tu seras candidate sur ENA
aux législatives sur la 11e circonscription, donc, qui va de Rouvroy à Carvin.
D'accord, ok, très bien. Donc, ça c'est vrai pour chacun des invités de Micro-Rebelle. Chacun a la possibilité de revenir. Hein. L'émission va se poursuivre jusque juin. Et plus si affinité, on espère qu'on aura la possibilité d'avoir une émission politique régulière sur Micro-Rebelle. Donc on va se quitter, hein. On est sur microrebelle.fr, sur Radio Plus 104.3 dans l'émission Débattre la campagne. On va se retrouver mardi prochain pour une nouvelle émission. Et pour terminer celle-ci, je vous propose d'écouter une chanson française un petit peu humoristique, hein. C'est toujours de la musique libre, hein. C'est le groupe Les Bernardos qui nous interprète Les Malheurs de Sophie.
Voilà, écoute, ça fait quelques jours que je suis amoureux de toi. Et si tu prouves quelque chose pour moi, écoute, rendez-vous au café de la gare, 14h. Ciao.
C'est encore Gaëtan, ce petit obsédé, qui travaille à Auchan, aux rayons surgelés. Il drague tout ce qui passe, raconte des trucs douteux. C'est un gros dégueulasse, il est vraiment foireux. Il vit chez sa mémé, il s'habille chez Damar, avec son petit ciré. Il est vraiment ringard, il joue les Don Juan dans sa super Volvo. Il est vraiment navrant, il n'écoute qu'à l'amour. J'en ai marre de ce tétard. Rien à faire. Il m'exaspère.
J'ai rencontré Sophie à la foire au fromage. Elle est vraiment jolie, je suis sur un nuage. J'ai eu son numéro par son meilleur copain. C'est un grand rigolo, je crois qu'il m'aime bien. Paraît que je lui plais et qu'elle me trouve beau. Quand je mets mon ciré, je ressemble à Clo-Clo. Elles sont toutes folles de moi, je suis irrésistible. Elles sont toutes en émoi, je suis vraiment terrible. Je l'aurai. Car je lui plais, j'en suis sûr, elle va craquer.
Allô Sophie, dis, si tu as reçu mon message après 14h, ah ben écoute, il est toujours pas trop tard, donc rendez-vous 19h au drugstore, ciao.
Je suis vraiment coincée pour une fois que je sors à une super soirée au café le drugstore. C'est vraiment mal barré, que vont dire les copains? Ce type a tout gâché, y a plus de rime en un. J'ai envie de le tuer à grands coups de chevrotine ou bien de l'éventrer comme ça dans sa cuisine. Mais c'est quand même bizarre pour une fois qu'on m'invite. Ouf, c'est un coup Bernard et de ses acolytes.
Il est bientôt 2h, mais elle ne viendra plus. Je vais lui faire mal au cœur, lui dire que j'aime plus. Ses copains sont partis, le café va fermer. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher.
Allô, Sophie, écoute, c'est Gaëtan ici. Écoute, il est 2h du matin, je suis fatigué, j'avais faim. J'ai mangé des pralines, j'avais toujours faim. Je viens de finir les fleurs, écoute, ça fait dur entre nous. Écoute, c'est fini, je sais que ça va être dur pour toi, mais courage, courage, ne pleure pas. Je resterai un ami pour toi si tu veux. C'est fini entre nous. Ciao.